Sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez, auditeurs, auditrices, une nouvelle émission La Méridienne pour le plaisir de vos oreilles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir justement d'avoir dans ce studio un nouveau journaliste. Bonjour Aaron.
Bonjour.
Alors Aaron, tu es venu avec une invitée, est-ce que tu veux nous la présenter?
Oui, elle s'appelle Nathalie, elle est éducatrice spécialisée en UEMA.
Voilà, eh bien c'est à toi, je te laisse échanger avec ton invitée.
Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. La première, comment adaptez-vous vos approches pédagogiques au profil sensoriel souvent très contrasté que présentent les enfants autistes, notamment ceux qui ont une hypersensibilité ou une hyposensibilité marquée?
Eh ben, justement, en UEMA, on travaille à la fois avec une psychomotricienne qui est avec nous une journée et demie par semaine. On a une orthophoniste, on a une psychologue. Et en fait, les enfants, ils sont donc ou inclus dans les classes, ou il y a la classe UEMA où il y a 7 élèves. Et ces 7 élèves sont inclus sur des moments spécifiques dans leur classe d'inclusion. Dans ces classes d'inclusion, on travaille donc en collaboration avec d'autres institutrices et qui, elles, nous font remonter un peu des choses sur les enfants. Par exemple, un enfant, on va le trouver en train de faire l'exercice, mais en train de regarder un peu tout ce qui se passe autour. Un enfant qui va être très agité, qui va se mettre les mains sur les oreilles. Alors, à ce moment-là, l'équipe éducative qui est tout autour de l'enfant et aussi l'enseignante spécialisée avec qui on travaille, on va mettre des outils en place grâce à un bilan sensoriel qui est fait par notre psychomotricienne. Et ce bilan sensoriel, en fait, va pouvoir nous aider à savoir si ben, cet enfant, il est hyposensible au bruit, s'il est hypersensible au toucher. Donc, grâce à ce bilan, il y a plein de choses qui vont pouvoir découler et on va se rendre compte, par exemple, qu'un enfant a des difficultés avec le bruit. Donc, c'est pour ça qu'on va lui mettre un casque pour pouvoir justement ne pas être parasité par plein de bruit autour et qu'il soit bien concentré à ce qu'il fait. Il y a des enfants à qui on va mettre un paravent juste devant eux pour qu'ils puissent travailler en fait dans un espace un peu clos et qu'ils ne soient pas dispersés par les mouvements et plein de choses qui se passent. En fait, on ne se rend pas compte, mais dans une école, il y a énormément de bruit, énormément de passages, des enfants qui vont chercher un crayon, un bruit qui tombe par terre. Et tous ces moments-là, les enfants souvent TSA sont souvent hypo ou hypersensible, comme tu le dis très bien, Aaron. Et on a besoin, nous, d'avoir des outils pour pouvoir faire que, et ben justement, avec le casque, avec le paravent, et ben tout ça, ça va moins interférer et il va être beaucoup plus concentré sur le travail. Donc, selon les enfants, on a 7 enfants à l'UMA, ils ont 7 profils sensoriels différents et donc on adapte en fonction des besoins de l'enfant. Parce que justement, on va se rendre compte que ça va être au niveau auditif, ça va être au niveau visuel, ça va être au niveau du toucher. Et donc, nous, on a plein d'outils qui sont mis en place par la psychomotricienne. Et donc, il y a des protocoles qui vont être mis en place pour chaque enfant.
D'accord. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler des dilemmes éthiques que vous rencontrez dans votre pratique quotidienne, en particulier lorsqu'il s'agit de concilier les objectifs éducatifs institutionnels avec le respect du rythme et des particularités de chaque enfant?
Alors en UEMA, on a un projet qui est fait et aussi ce qu'on appelle une ESS. Là, c'est plus scolaire et du coup, le projet personnalisé est plus médico-social, entre guillemets. Parce qu'en fait, l'UEMA, ça associe à la fois une équipe médico-sociale et une équipe de l'éducation nationale. Donc en fait, on met en place des objectifs selon les besoins de l'enfant. Et c'est pareil, il y a 7 enfants à l'UEMA, ils ont 7 objectifs différents, que ce soit pédagogique ou au niveau du médico-social. Et ces objectifs, on va les faire en équipe, mais on va surtout les faire en famille. Parce que, bien évidemment, nous, on peut, par exemple, il arrive qu'à l'UMA, des enfants arrivent et qu'ils portent des couches. Et la première chose qu'on fait, si la famille est OK, c'est de mettre en place, en fait, un protocole de propreté. Mais ça, en fait, tout ce travail-là, il ne peut pas se mettre en place si la famille n'est pas en lien avec nous et si on ne travaille pas avec elle. Donc, ce travail-là, d'essayer de mettre en lien et à la fois le projet pédagogique et les besoins de l'enfant, en fait, nous, on a des réunions tous les mercredis. Et chaque mercredi, on réfléchit, on repense, on essaye de revoir si les objectifs qu'on avait mis en place, s'ils sont toujours OK, s'il faut les modifier, si au contraire, il y a des choses qu'il ne faut pas changer. Donc en fait, nos réunions d'équipe, où on est en équipe pluridisciplinaire, puisqu'on est à peu près 8 à 9 personnes autour de la table, parce qu'il y a donc une enseignante spécialisée, une psychomotricienne, un psychologue, une AESH, une orthophoniste et des éducatrices. Donc en fait, c'est aussi à ces moments-là où on réévalue les objectifs des enfants. Parce qu'ils sont tout petits. L'UMA, c'est des enfants qui sont accueillis entre 3 et 6 ans. Et c'est des enfants qui évoluent très, très vite, très rapidement. Donc si on ne revoit pas les objectifs très rapidement, on va être à côté. Donc on réévalue ça très rapidement en équipe, toujours en étant en lien avec les familles et en accord avec eux, quoi. Parce qu'ils ont souvent des choses qu'ils veulent travailler, que nous, auxquelles on n'a pas forcément pensé. Mais ça peut être pas forcément dans l'école, ça peut être en dehors de l'école. Des enfants qui ont du mal à s'endormir, des enfants qui ne supportent pas de sortir de la maison. Donc il y a tout un travail justement pour quel objectif et comment on doit travailler pour quand on sort de la maison, que la sortie se passe le mieux possible en famille. Voilà. En fait, tout ça, ça se met en lien et c'est travaillé... j'ai envie de dire, de manière complètement hebdomadaire.
Vous parlez beaucoup de l'importance de la famille et justement, j'aimerais vous poser comme question, quel est le rôle des familles dans votre travail quotidien et comment gérez-vous les éventuels désaccords entre les attentes parentales et les orientations professionnelles ?
On essaye d'être en accord à chaque fois avec la famille, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que ce soit... nous, équipe médico-sociale ou enseignants, qui imposions les choses. Donc pour ça, on a des réunions régulières avec eux, on a des points téléphoniques. Alors bien évidemment, ce qu'on peut voir, nous, à l'école et ce qu'on voit des fois à la maison, on peut voir des comportements qui peuvent être différents parce que les enfants qui sont TSA clivent souvent les espaces, c'est-à-dire qu'il va y avoir un comportement à la maison qui n'est pas du tout à l'école et vice-versa. Donc justement, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on, avec l'accord de la famille, quand c'est possible et quand ils le demandent, nous, on peut venir à domicile travailler des choses. Par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais nous, on a des outils de communication avec les enfants TSA qui s'appellent le PEX, où il y a d'autres outils. Et en fait, nous, si on utilise ce PEX, cet outil de communication qui est avec des images qu'à l'école, ça n'aura aucun sens. Parce que l'enfant... il est de passage à l'UMA, il est là pendant 3 ans, il va repartir. Donc si cet outil n'est pas généralisé dans la maison, à la maison, ça n'aura aucun sens. Donc c'est pour ça qu'on travaille énormément avec les familles et qu'on va à domicile quand elles ont besoin de travailler des choses. Elles viennent en réunion, on les a de manière aussi pratiquement hebdomadaire au téléphone. Donc... c'est pas toujours évident de se mettre en accord avec les familles, mais en tout cas, nous, pour moi, et le projet personnalisé dont tu parlais tout à l'heure, la loi du 2002 dit bien que c'est coécrit, c'est écrit avec les familles. Il n'est pas question que ce soit fait sans leur accord et sans cette volonté-là. Parce que nous, on le voit, et l'expérience parce que l'UMA de Nazel Négron, là, elle va avoir bientôt 5 ans, l'expérience fait que si on ne travaille pas avec les familles, l'enfant n'avance absolument pas. Donc, pour nous, ça fait partie d'un point hyper important dans notre manière de travailler au quotidien, quoi.
D'accord, merci. Vous parlez beaucoup des différences entre chaque enfant et en particulier leurs différences d'évolution et de difficultés. Et justement, j'aimerais vous poser comme question, quelle place accordez-vous à l'expression émotionnelle chez les enfants autistes et comment travaillez-vous autour de la régulation affective souvent entravée par les difficultés de communication verbale ?
Alors, on a En effet, des enfants qui peuvent arriver à l'UMA où en fait ils sont dans des colères assez importantes, des crises importantes. En particulier quand des enfants arrivent et qu'ils sont non-verbaux. Parce qu'en fait, nous, on va leur indiquer des choses, d'aller à tel endroit, de se déplacer à un autre endroit. Mais en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Et du coup, eux, ils nous répondent ça par une crise qui peut être des fois très violente. On a vu des fois la classe tout voler un peu à droite, à gauche, parce que justement, ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait, ce qu'on leur demandait. Donc pour les enfants, en effet, qui sont non-verbaux, on met des outils en place. Alors, encore une fois, selon les enfants, les outils, ça peut être des photos, justement, de dire, ben voilà, là, il y a la photo de la récréation. Après, on va aller en salle psychomotricité. Après, on retourne en classe. Ça peut être des photos qu'on met bout à bout, donc ce qu'on appelle un peu, c'est un peu du repérage visuel. Et pour d'autres qui sont dans d'autres, qui sont oralisants et qui ont d'autres capacités, eh ben, ça sera juste en nommant les salles. Mais à l'UMA, quand on arrive dans la classe, ce qu'on voit quand même beaucoup de manière générale, c'est un espace très épuré, c'est assez blanc. Mais par contre, il y a énormément de photos parce que chaque enfant a un planning où il est repéré dans sa journée selon les espaces et selon les personnes avec qui il va travailler. Donc, on peut rencontrer des crises, on peut rencontrer des moments de grosse colère ou de même de frustration. Là, j'ai en tête un enfant qu'on a à l'UMA où, en effet, ça peut, quand il n'est pas d'accord, ça peut passer par des très grosses crises. Parce que bah, y a la frustration, elle veut tel objet et que cet objet, bah, elle ne va pas l'obtenir. Mais il y a aussi, nous, il faut aussi qu'on arrive à gérer ces crises sans pour ça lui accorder, j'ai envie de dire, si elle veut tel objet et qu'à ce moment-là, il n'est pas possible. Nous, on doit aussi savoir gérer les crises et cette frustration-là. Parce qu'il faut savoir que c'est des crises aussi qui sont à domicile, etc. Ce n'est pas qu'à l'école. Donc, notre travail aussi, c'est d'être avec l'enfant. Alors, il y a aussi la psychologue qui fait tout un travail sur la gestion des émotions. Il y a tout un travail, ce qu'on appelle, nous, sur les habiletés sociales. Alors, c'est par l'intermédiaire de jeux, hein, parce qu'ils sont tout petits, ils ont 3 à 6 ans. Donc, c'est souvent par l'intermédiaire de jeux qu'on travaille aussi tout ce qui est gestion des émotions. Mais ça, encore une fois, les 7 enfants sont différents. Il y a des enfants qui sont verbaux, donc non-verbaux, avec des déficiences légères ou pas du tout. Donc, encore une fois, c'est complètement individualisé.
Vous parliez tout à l'heure qu'avec les enfants autistes, autant non-verbaux que verbaux, l'inclusion pouvait être compliquée. Et justement, comment travaillez-vous à favoriser l'inclusion sociale des enfants autistes tout en respectant leurs besoins de retrait ou leur manière singulière d'interagir avec le monde ?
Alors, en fait, ça, c'est pareil. C'est complètement quotidien. Par exemple, je vais avoir un enfant aujourd'hui qui doit aller en inclusion de 9h à 10h. Si on sent que cet enfant... Parce qu'il faut savoir que les moyens humains à l'UMA sont, comme il existe peu dans d'autres dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a il y a un adulte par enfant. C'est-à-dire que l'enfant est toujours accompagné par un adulte, que ce soit dans l'équipe pluridisciplinaire avec lequel on accompagne. Et si, par exemple, il doit aller en inclusion de 9h à 10h et qu'on sent que sensoriellement, ce jour-là, ce n'est pas possible parce qu'il a mal dormi, parce que c'est un jour où il est moins bien, où il arrivait moins bien, bien évidemment que nous, on va assez rapidement l'enlever de l'inclusion et pouvoir, pour que l'inclusion ne soit pas un échec, surtout. Donc, on peut repartir sur la classe du UMA avec lui parce qu'on sent que à ce moment-là, ce n'est pas possible d'y retourner. Et notre mission après, notre travail, c'est qu'ils puissent y retourner à d'autres moments. Il y a des enfants qui vont aller en inclusion. Au début, quand ils arrivent à l'UMA, ça va être sur des temps psychomoteurs, sur des temps de musique. Et puis après, le but, c'est qu'ils puissent aller en inclusion le plus possible sur des temps d'atelier. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de chaque enfant. Là, on a des enfants qui vont sortir de l'UMA l'année prochaine, qui vont aller sur d'autres dispositifs. Ils sont quasiment seuls en inclusion. Et d'autres qu'on accompagne tout le temps. Et il y a d'autres enfants qui sont, à l'heure actuelle à l'UMA, une demi-heure en inclusion par jour. Pas plus, parce qu'ils ne peuvent pas, au niveau sensoriel, au niveau attention, ils ont besoin de travailler d'autres choses avant de pouvoir être dans l'inclusion. Et dans l'école dans laquelle on est accueilli, on a aussi des institutrices qui, du coup, avec qui on échange beaucoup. Et elles réadaptent aussi à chaque fois le travail. Si nous, on arrive et qu'on voit que ce travail était en difficulté, on essaye de le retravailler à l'UMA. Et le but, c'est quand on retourne en inclusion, que ce soit plus facile pour lui. Encore une fois, qu'il n'y ait pas d'échec quand il va en inclusion et que ce soit un moment qui est aussi intéressant pour lui. Autre chose, ce qui est intéressant, nous, dans l'école, c'est que l'inclusion, pour nous, elle n'est pas que dans un sens. Ce n'est pas que les enfants de l'UMA qui doivent être inclus dans les classes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le regard des enfants qui portent sur les enfants qu'on accompagne à l'UMA. Et pour ça, nous, à chaque anniversaire, entre guillemets, où c'est la journée de l'autisme, nous, on fait des sensibilisations dans chaque classe, que ce soit en classe de maternelle et en élémentaire, où en fait, on fait une petite sensibilisation sur justement ce qu'est l'autisme, quels outils ils ont besoin, pourquoi tel enfant crie quand il y a de la musique ou quand il y a de la sonnerie. Voilà, on essaye de réexpliquer, alors par plein d'outils, des livres, des petits films, voilà. Chaque année, on fait toujours une sensibilisation aux enfants qu'il y a dans l'école. Et en fait, on s'est rendu compte là, quand on a fait la sensibilisation en élémentaire, c'était des enfants qui étaient là à l'ouverture de l'UMA. En fait, ils sont assez spectaculaires parce qu'en fait, ils savent ce que c'est que l'autisme, ils connaissent les particularités, ils peuvent nous expliquer pourquoi un enfant a un casque, pourquoi tel enfant est sur un coussin à picot, pourquoi tel enfant est sur un ballon, parce que cette sensibilisation, en fait, eux, ils l'ont, et que maintenant, ça fait partie intégrante de l'école et d'avoir des enfants, en effet, différents dans leur classe.
D'accord. Dans la plupart de vos réponses, vous parliez aussi beaucoup d'aide de professionnels du domaine médico-social. Et du coup, comment collaborez-vous avec les autres professionnels du champ médico-social, orthophonie, psychomotricienne, psychologue, etc. Et que pensez-vous de l'interdisciplinarité dans la prise en charge de l'autisme ?
Alors nous, on n'a pas le choix, entre guillemets, parce qu'on travaille tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, dans ma journée, j'ai travaillé avec l'enseignante spécialisée, j'ai travaillé avec l'orthophoniste, j'ai travaillé avec l'AESH et j'ai travaillé avec d'autres éducatrices. Tous les jours, il y a de toute façon ou la psychologue, ou la psychomotricienne, ou l'orthophoniste. Donc moi, je trouve que, enfin pour moi, ce que j'aime à l'UMA, c'est justement ce regard différent, parce que ce soit la psychomotricienne ou la psychologue, elles auront un regard différent, et le but, c'est qu'on puisse en échanger et que ces observations, on les mette en commun pour trouver des outils communs. Donc moi, en tout cas, la richesse que je trouve dans l'UMA, c'est à la fois cet accompagnement qu'on a avec les enfants, mais c'est de pouvoir travailler quotidiennement, du coup, à chaque fois, en équipe pluridisciplinaire. Parce que j'ai travaillé dans des établissements où, en effet, il y avait l'équipe d'éducateurs et plus loin, il y avait le reste de l'équipe qu'on voyait quasiment pas ou peu. Donc, on a quand même cette chance-là de pouvoir, du coup, réévaluer, rééchanger sur un protocole, sur des choses qu'on a mis en place quotidiennement. Donc pour moi, c'est une richesse.
D'accord. Sur la question de la formation, quel changement souhaiteriez-vous voir dans la formation des éducateurs spécialisés concernant l'accompagnement des personnes autistes, notamment en ce qui concerne les approches fondées sur des preuves scientifiques ?
Alors ce que j'aimerais qu'il change dans les écoles d'éducateurs, c'est que en fait, quand on postule pour aller justement vers des formations d'éducateurs spécialisés, qu'on soit prêt à travailler avec des enfants, des adultes, des personnes en réinsertion, enfin, d'avoir un champ des possibles et d'avoir cette ouverture-là. D'avoir aussi la volonté et l'envie de travailler, comme tu disais tout à l'heure, en équipe pluridisciplinaire. Et pour moi, d'avoir quand même un minimum d'expérience, parce que quand on travaille avec des enfants TSA, on se rend compte qu'on a besoin, il y a l'école d'éducateurs, ce qu'on nous apprend, les intervenants qui viennent, mais il y a un moment donné, quand on se spécialise entre guillemets vers une formation, comme là ça peut être l'autisme, ou comme je te disais, ça peut être la réinsertion, on a tout intérêt à se former un peu plus sur tous les outils qui existent, toutes les méthodes qui existent, parce qu'il en existe plein. Et ce qui manque, à mon avis, c'est justement de prendre le temps, en sortant de l'école, de se spécialiser. Et ça, on n'a pas forcément cette possibilité-là, parce que quand on sort de l'école, on a besoin de trouver du travail, on a besoin d'aller travailler. Et que quand on arrive dans des institutions ou dans des dispositifs, on ne peut pas forcément nous former, parce qu'il y a déjà une équipe qui est là et on ne nous forme pas forcément à ça. Je pense qu'on ne pousse pas assez la formation, mais sauf que la formation, elle est sur 3 ans, et que 3 ans, ça va très vite. En tout cas, pour moi, ce qui est primordial, c'est que dans cette formation de 3 ans, il faut absolument que les personnes fassent du terrain. Parce que l'école, ce qu'on apprend dans les livres, c'est très bien. Mais en fait, nous, on est dans la relation en permanence, du matin au soir, du soir au matin. Donc si on n'a pas envie d'être dans ce champ-là, ou en même temps, on n'a pas envie d'être dans la relation, je pense qu'il faut carrément aller faire autre chose. Donc je pense que ça, on l'apprend quand on est sur le terrain, quand on travaille avec, justement, dans différents secteurs. Pour moi, ça me paraît essentiel que la formation soit plus... Pour moi, il devrait y avoir plus de stages qu'il n'y a actuellement sur les formations d'éducateurs spécialisés. Parce que ça va permettre à l'étudiant de se confronter aux équipes, justement, à une réunion d'équipe, à se positionner en réunion, à se positionner dans une équipe, à prendre la parole. En fait, il y a plein de choses à apprendre en même temps. Et des fois, quand on est sur un poste, ça va trop, trop vite. Et du coup, il peut y avoir des éducateurs qui, du coup, veulent, se disent « je vais travailler là-dedans » et sont vite dégoûtés, ils vont faire autre chose parce que, en fait... ça va trop vite parce qu'on ne peut pas prendre le temps de leur expliquer ou qu'ils ne sont pas formés. Donc, voilà.
Une toute autre question. Comment évaluez-vous la frontière entre ce qui relève de la neurodiversité à respecter et ce qui peut être soutenu par une intervention éducative ciblée ?
Alors, nous, justement, on travaille aussi dans l'équipe de l'UMA. Il faut savoir qu'il y a aussi un psychiatre. Donc, de toute façon, les enfants TSA, j'ai envie de dire, c'est des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est nos formations qui vont nous aider à pouvoir prendre en charge ces enfants-là. Et c'est justement en lien avec ce que je te disais tout à l'heure et les formations d'éduc. Si on n'a pas un minimum de connaissances sur justement ce que sont les troubles du neurodéveloppement, il y a un moment donné, on risque de faire des choses auprès des enfants autistes, par exemple, qui ne va pas être adapté et qui ne va pas être dans les obligations que nous donne la HAS. Donc, en fait, je pense encore une fois que c'est la formation qui pourra aider à accompagner le mieux possible les enfants TSA et les enfants TND de manière générale. Enfin, un trouble du neurodéveloppement.
Une question qui rejoint un peu la première question. Dans quelle mesure l'environnement physique, sonore et humain influence-t-il le comportement et les apprentissages des enfants autistes et quelles stratégies mettez-vous en place pour créer un cadre sécurisant et stimulant ?
Bon, ça rejoint aussi, comme tu disais, la première question. En fait, c'est des enfants qui peuvent être souvent hypersensibles ou hyposensibles. Et en fait, on peut expliquer ça comme une espèce de jauge où en fait, l'enfant, il va être à l'école, il va accumuler du bruit dans la journée. Et puis, il y a un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, il va y avoir une énorme crise. Tu ne sais pas pourquoi parce que tout était calme autour de lui, rien ne se passait. Mais en fait, on se rend compte que là, justement, sa jauge, elle était dans le rouge parce qu'il a accumulé énormément de bruit. Et que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour justement qu'il soit qu'il accumule le moins de bruit possible. On met des outils en place, en particulier le casque. On a, nous, un protocole, par exemple, où il y a des enfants qui sont dans un espace de retrait, un espace où il y a vraiment que des outils sensoriels. C'est une salle où il n'y a pas de stimulation visuelle, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de jeu, etc. Et il y a un protocole où ils sont à un temps donné, avec un timer pour qu'ils voient bien que le temps, voilà, c'est tant de temps qu'ils sont dans cet espace-là. Et cet espace-là va les mettre ce qu'on appelle, nous, en hypo. Ça permet que lui va se réguler dans cet espace qui va être calme, posé, sans mouvement autour de lui. Et ça va être hyper important parce qu'on se rend compte que quand il va dans cet espace et quand il en ressort, il va être beaucoup plus accessible au travail. Donc nous, ce que j'ai dit dans la journée, on va avoir plein de moments où des enfants, dans leur planning, ils ont à un moment donné ce temps où ils vont être dans ce temps hypo, dans cet espace-là, pour pouvoir se réguler et qu'après, quand ils reviennent, ils sont bien dans le travail. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait en permanence avec les enfants, mais encore une fois, de manière différente. On a un enfant, par exemple, à l'UMA, le bruit, en tout cas, suite au bilan qu'on a fait sensoriel, ne semble pas le déranger plus que ça. Donc, il ne porte pas de casque, voilà. Mais par contre, il va avoir une sensibilité au toucher, voilà. Donc, tous les enfants TSA ne sont pas hyper sensibles au bruit, mais quand même, on a quand même une grande majorité.
D'accord. Durant votre carrière et avec du recul, y a-t-il une situation, une rencontre ou un enfant en particulier qui a bouleversé ou transformé votre vision du métier ?
Il y en a plein. Il y en a plein. En fait, on se rappelle... moi, je me rappelle aussi pourquoi... parce que je ne savais pas que j'avais envie de devenir éduc. Ce n'était pas vraiment ça que je voulais faire. Je me cherchais un peu, puis à un moment donné... J'ai été travailler dans un institut où on accueille des enfants qui ont des problèmes cérébraux. Et j'ai passé 15 jours là-bas et j'avais l'impression d'être hors du temps. J'ai passé 15 jours, mais vraiment avec une équipe et des enfants qui étaient hyper heureux, avec des difficultés motrices extrêmes, non oralisants. Mais en fait, avec une prise en charge autour qui était quand même assez impressionnante. Et donc, quand je me suis retrouvée là, je me suis dit, ben, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est accompagner ces enfants-là, c'est accompagner les familles. Et après, tout le long de ma carrière, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient dans l'aide sociale à l'enfance ou avec des adultes ou enfants avec des handicaps différents. Et en fait... avec le recul, il y a toujours quelques situations qui me reviennent ou qui m'ont marqué ou qui font que, du coup, je vais raisonner autrement parce que j'ai pris peut-être aussi un peu de maturité en me disant, peut-être que là, c'était peut-être pas de cette manière-là qu'on aurait dû faire les choses, peut-être que c'était d'une autre manière. Mais j'espère que ça va me tenir, moi, toute ma carrière, parce que c'est ça qui te permet de te remettre en question. C'est ça qui permet de te dire est-ce que c'est ça que je veux faire ou est-ce que je veux changer de voie. Parce que je pense que quand on est éduque, comme en UMA, tu as besoin d'une énergie totale. Tu as besoin d'avoir une vraie conviction d'être là et de vouloir travailler non-stop avec les enfants. Et donc, je pense qu'il y a une remise en question aussi permanente à avoir. On peut avoir aussi maintenant des éducateurs qui veulent, et c'est très bien si c'est ce qu'ils veulent faire, qui veulent travailler en tant qu'éduc, mais pas forcément travailler avec les gens à côté d'eux, travailler parce qu'ils vont être dans de la coordination d'équipe et qu'ils ne vont pas être en relation avec les personnes. Ok, tu peux être éducateur comme ça, mais en tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon choix de carrière. Je veux bosser et d'être en contact avec les gens, avec les familles, parce qu'en fait, on apprend énormément aussi sur nous et que c'est des vraies rencontres... relationnel en fait, que ce soit avec les familles ou les enfants.
D'accord, merci. J'aimerais finir cette émission, si vous le permettez, avec un poème qui vous est dédié à vous, les éducateurs de tous les jours. Il s'appelle « Les veilleurs de lumière ». Ils marchent doucement au rythme de l'enfant. Quand le monde s'agite et devient déroutant, Dans l'éclat d'un regard, dans un geste discret, ils lisent les silences que nul ne déchiffrait. Ils tissent chaque jour des repères invisibles, avec des mots choisis, des présences sensibles, un monde parallèle, fragile et merveilleux, s'ouvre sous leurs pas, calme et tendre et précieux. Ils cueillent des éclats dans le moindre progrès, ils célèbrent la joie là où d'autres se taisent, sans juger, sans presser, ils soutiennent, ils guident. Dans les tempêtes douces où la parole est vite, ils ne cherchent jamais à changer qui ils sont, mais à faire fleurir le plus beau de leur nom. Dans les cris, les silences, les gestes hésitants, ils voient mille chemins, mille cœurs palpitants. Éducateur du lien, gardien de l'essentiel, vous êtes l'étincelle dans l'ombre émotionnelle.
Eh ben, bravo, hein. Je le veux, je vais l'afficher à l'UMA.
Nous sommes toujours sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Merci beaucoup à toi Aaron pour ces questions très intéressantes et merci à ton invité. Du coup, on en sait plus sur le métier d'éducatrice et on en sait plus aussi sur les UEMA. Alors moi j'avais quelques questions puisque Aaron me permet de poser des questions à l'invité. J'aimerais savoir quel dispositif il existe après l'UEMA. Est-ce qu'il y a un équivalent pour l'école primaire et au collège, au lycée, comment ça se passe?
Alors il y a une équivalence plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des UEA. Des UEA, elle est à Fondette. Mais en fait, les moyens au niveau médico-sociaux sont un petit peu moins importants. C'est-à-dire qu'au niveau de pluridisciplinaire, il y a moins de personnes. Mais ce n'est pas parce que l'enfant est à l'UEMA qu'il va aller en UEA. C'est arrivé. Hein. Mais après l'UEMA, en fait, encore une fois, il y a plein de champs de possibles. Et sur les 5 ans qui sont arrivés, on a des enfants qui ont été en milieu ordinaire avec une AESHI. Il y a des enfants qui ont été en ULIS. On a des enfants qui peuvent aller en effet en UEA. Il y a des enfants qui vont aussi en IME, en Institut Médico-Éducatif. On a des enfants qui peuvent aller au DAR. C'est un dispositif qui se met en place au niveau des élémentaires et des collèges. Donc, encore une fois, selon les enfants, il y a plusieurs possibilités. On a des enfants qui vont en CP ordinaire. Voilà.
Merci. Alors, vous avez aussi parlé du PECS, donc un système avec des pictogrammes. Est-ce que vous en avez parlé sur l'idée que chaque comme chaque enfant a un planning en images. Est-ce que vous voudriez nous préciser un peu comment ça fonctionne ce PEX? Est-ce qu'on peut en fabriquer soi-même? Est-ce qu'on peut en trouver en ligne? Et comment ça marche? Est-ce qu'un enfant peut demander des choses aussi avec ses pictogrammes?
Alors le PEX, c'est un outil de communication. Il y a deux choses du coup. Il y a à la fois le planning visuel, qui est un planning qu'on fait visuel avec les différentes étapes qu'il va avoir de la journée. Ça, c'est, voilà. Mais le PEX, c'est un outil de communication. Donc en fait, ce classeur-là va permettre à l'enfant de faire des demandes et de communiquer. Donc on a des enfants qui arrivent qui sont non-verbaux, et cette année aussi. Et là, qui sont en train d'utiliser le PEX, donc chacun a son classeur de communication. Et dedans, d'abord, bien évidemment, pour leur donner envie de communiquer, on met des images ou en tout cas des photos du PEX, de quelque chose qu'il aime bien. Ça peut être un gâteau, des bonbons, etc. Et en fait, on va lui apprendre au début comment l'utiliser, c'est-à-dire qu'il va prendre l'image dans son classeur, il va la donner à l'autre adulte. L'adulte va nommer et va en même temps le féliciter en disant « bah voilà, oui, gâteau, bah je te donne le gâteau » et la personne donne le gâteau. Et ça commence, l'apprentissage du PEX, en fait, ça commence vraiment par des choses fun, par des choses qu'ils aiment, où on sait que ça va fonctionner. Donc après, c'est dans son classeur et le but, c'est que l'enfant fasse la demande seul à l'adulte. Donc au début, c'est un entraînement parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Donc au début, c'est un entraînement qu'on fait avec eux, on leur montre, et puis après, ils le font tout seuls. Au début, en effet, c'est sur des images, mais après, ce PEX, on va l'utiliser avec des bandes phrases, c'est-à-dire qu'il va apprendre à pouvoir l'utiliser en nommant « je veux tel objet, je veux des Playmobil, je veux le camion ». Et cet outil n'est pas que pour donner des images et ne rien dire. Le but aussi là-dedans, et on s'en rend compte aussi à chaque fois qu'on utilise le PEX, c'est que l'enfant oralise à un moment donné. C'est ce qui arrive souvent en fait. Parce qu'en fait, comme ça, de rien, il va répéter le mot de ce qu'il a envie, sans s'en rendre compte. Et c'est comme ça aussi que des fois, il commence à communiquer. Donc, cet outil-là, il est au départ, en effet, pour qu'il puisse échanger. Et je vous disais, il y a des fois des enfants où on peut voir où il y a des grandes colères, des grandes frustrations parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Et je peux vous dire que quand le PEX arrive et qu'un outil de communication, en tout cas PEX ou autre chose, un outil de communication arrive et qu'ils arrivent à s'exprimer, eh ben on voit que il y a beaucoup moins de colère, beaucoup moins de frustration parce que il arrive à dire ce qu'il a envie ou pas envie, voilà, sur le quotidien. Et cet outil-là, c'est pareil. On va à la maison, on montre aux parents comment on l'utilise, et le but, c'est qu'ils l'utilisent un peu partout. S'il va au centre de loisirs, il va au centre de loisirs, le PEX, pour que voilà, il fasse ses demandes et qu'il puisse communiquer partout où il va.
Alors là, c'est un outil qui est utilisé pour les enfants avec TSA, mais peut-être qu'un PEX, ça peut être utilisé pour d'autres enfants qui ont d'autres problématiques.
Oui. Alors, ce qu'on voit, c'est par exemple, pas forcément l'outil du PEX, mais le système de repérage qu'on a à l'école, à l'UMA, on se rend compte que les institutrices, des fois, d'école maternelle, elles disent « Ah ben oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cet outil-là, peut-être que ça serait peut-être une bonne idée de pouvoir le faire ». Par exemple, il y a plein d'outils comme ça qui paraissent complètement banal qu'on utilise au quotidien. Par exemple, un enfant, quand il, les premières fois qu'il fait un parcours psychomoteur, qu'il ne sait pas attendre parce que c'est extrêmement douloureux pour lui d'attendre, on a juste une boîte à œufs et il sait qu'il va mettre son œuf. Et quand il va mettre son œuf, ça va être à lui de passer. Et ben, des fois, ne serait-ce que ce passage-là fait que l'étape est des fois plus facile. Et qu'il sait que quand il met l'œuf, ça veut dire qu'il va démarrer l'activité. En fait, il a besoin d'avoir plein de repères et ils n'ont pas forcément, on va dire, oui, ça va être à toi, etc. Mais ça veut rien dire. Et juste de mettre l'œuf et de savoir qu'on va démarrer, et ben voilà, ça veut dire qu'à chaque fois, je veux démarrer. Et le but du jeu, entre guillemets, c'est de, les outils, c'est de les estomper, c'est de les enlever. Les enfants qui ont un repérage visuel, comme ça, quand ils arrivent à l'UMA, le but, quand ils repartent, c'est pas forcément encore d'avoir le repérage visuel s'ils en ont plus besoin. Le but, c'est d'estomper tous les outils pour justement après pouvoir aller dans une classe lambda où il va pas y avoir tous ces outils-là, quoi. Le but, c'est pouvoir tout transférer.
Parce que sur l'idée de communiquer ses émotions ou même lire les émotions chez les autres, y a plein d'autres personnes qui ont cette difficulté, pas que les personnes avec TSA. Et des fois, il y a des structures où on utilise la langue des signes pour des enfants petits. Et donc ça, est-ce que c'est aussi des outils que vous pourriez utiliser ?
Ouais. Alors nous, après, on utilise le PEX parce que c'est un outil qui convient aux enfants qu'on a là. Mais en effet, on pourrait utiliser d'autres outils comme la langue des signes ou autres. Mais nous, ce n'est pas des besoins que les enfants qu'on a cette année ou les années précédentes, ils n'avaient pas ces besoins-là. Mais bien sûr qu'après, on peut s'adapter et utiliser d'autres outils qui soient nécessaires à l'enfant, quoi.
Alors, vous avez parlé aussi d'habileté sociale. Est-ce que vous voudriez nous expliquer un peu plus ce que c'est ?
Les habiletés sociales, en fait, c'est juste pouvoir apprendre à dire comment je m'appelle, enfin pour les petits qu'on a, hein, comment ils s'appellent, attendre son tour, pouvoir jouer avec l'autre. C'est tous ces codes-là sociaux qui pour nous sont, encore une fois, complètement simples et logiques, hein, mais qui ne sont pas forcément très évidents. C'est des choses qui travaillent en habileté sociale. Et le but encore, c'est de le transférer à l'école, en classe, partout où il va aller, de pouvoir attendre son tour quand il va jouer, de pouvoir dire qu'il s'appelle un tel, qu'il a 5 ans, enfin, se présenter. Et c'est ces petites choses-là qu'on apprend. Donc, c'est un petit groupe d'enfants avec une psychologue et une éducatrice. Et justement, par l'intermédiaire du jeu, hein, parce que c'est des petits, hein, on travaille tous ces codes sociaux, quoi.
Alors, pardon, hein, j'insiste, mais encore une fois, en vous écoutant expliquer ça, je me dis, finalement, il y a vraiment d'autres personnes qui auraient besoin, peut-être, de cours sur ces choses-là, sur... attendre son tour, écouter l'autre. Et donc, ça me fait aussi penser à cet espace, disons, hyposensoriel, qui, à mon avis, pourrait aussi trouver sa place avec profit dans la plupart des écoles, en fait.
Mais elles reprennent souvent des outils comme ça. Par exemple, elles peuvent reprendre l'idée du tipi, comme ça, qui est dans une classe, et se rendre compte de l'utilité qu'il a et de le remettre en place. Nous, on est dans une école où elles peuvent réutiliser ces outils-là sans aucun problème. Mais en effet, je suis d'accord, ça devrait être généralisé. Un enfant, en effet, pas forcément parce qu'il est autiste, hein, parce qu'il y a un moment donné, il y a trop de bruit, il y a trop d'effervescence. Il a besoin de... Alors, ça peut s'exprimer par de la colère, etc. C'est pas que les enfants TSA qui font des colères, on le voit à l'école. Et que des fois, de passer par ces espaces-là, ça serait bénéfique pour eux. Nous, on le voit, il y a des enfants qui ont besoin tout le temps d'être dans le mouvement. Donc, la classe du MA, les autres enfants aiment beaucoup venir la voir parce que, par exemple, il y a un trampoline dans notre classe. Donc, un trampoline dans une classe, on peut se dire ça va avoir un effet négatif sur les enfants. Mais quand il y a un enfant qui a besoin comme ça de mouvement en permanence, hein, il fait sur 5 minutes avec, pareil, un timer... Du trampoline, quand il va revenir au travail, il va revenir beaucoup plus apaisé et beaucoup plus dans le travail, en fait. Donc, je suis d'accord que c'est des outils qui peuvent être aménagés. Et nous, on l'a vu, hein, déjà dans cette école-là ou dans d'autres, des instituteurs où on rentre dans une classe et, en fait, l'enfant n'est pas assis sur une chaise, mais sur un ballon rebondissant parce qu'en fait, il a besoin d'être tout le temps en mouvement et que la maîtresse s'est rendue compte que la chaise, ça n'allait pas et que depuis qu'il était sur le ballon, ça allait beaucoup mieux. Mais je suis d'accord qu'il faudrait généraliser ces outils-là.
D'ailleurs, même, il y a des lieux de travail où on commence à, comment dire, à faire de la place à tous ces outils, dispositifs, parce qu'on se rend bien compte que finalement, c'est utile à plein d'autres personnes.
Voilà, et que ça ne va pas avoir un effet néfaste dans la classe. Au contraire, c'est souvent, une fois que les instituts le mettent en place, elles se rendent bien compte que en effet, ça a un vrai impact. Et un simple tipi pour des enfants qui ne sont pas bien, pouvoir se poser un quart d'heure, 20 minutes, et revenir après travailler, ça a quand même beaucoup son bénéfice. Mais je suis d'accord, ça devrait être généralisé.
Et une dernière question, avez-vous le temps, oui, est-ce que vous regardez ce qui se passe dans les autres pays d'Europe sur ces questions-là ?
Oui, déjà par l'intermédiaire de nos formations. Et alors sur certains pays nordiques, on peut être un peu en retard, mais de manière générale, on a quand même des infrastructures pour accompagner les enfants, alors TSA par exemple, hein, qui sont quand même assez importantes. Et que je pense qu'on est quand même dans la moyenne plutôt bien lotis, quoi.
Merci. Alors voilà, moi j'ai pas d'autres questions, donc je me tourne. Non. Ben on va terminer ici cet enregistrement. Alors merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission La Méridienne que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et on va se quitter en écoutant Gaëlle de Stupéflip. Bonne journée à toutes et à tous.